Nous voici en cette cinquième rencontre du catéchisme pour adultes, poursuivant notre cycle sur le sacrement de la confirmation, et nous parvenons cette semaine à étudier les dons du Saint-Esprit, ces sept dons que l'Esprit-Saint vient donner en notre âme, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, le don de force, le don de science, le don de piété, et le don de la crainte de Dieu. Pour commencer, il faut savoir ce que sont ces dons. Si ce sont des dons, c'est qu'ils sont donnés. Ces dons sont des qualités surnaturelles, donc ils ne sont pas du seul fait de notre nature, mais qui sont au-dessus de la nature. Ils sont donc donnés par Dieu, forcément, mis dans l'âme par l'Esprit-Saint, pour permettre à celui qui est confirmé eh bien, de mieux connaître son devoir. Et sous cette catégorie du devoir, on peut mettre là le don de sagesse, d'intelligence, de science et de conseil. Donc pour mieux connaître son devoir et pour donner également à se confirmer plus de courage pour accomplir son devoir. Et là, on raccroche le don de force, de piété et de crainte de Dieu. Donc ce sont des qualités surnaturel, mise dans l'âme par le Saint-Esprit, eh bien pour nous aider à avancer dans cette vie spirituelle. Et je rappelle que si on appelle cette vie spirituelle, c'est parce que Spiritus, c'est l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint, le maître de la vie intérieure. Le sacrement de la confirmation donne à l'âme chrétienne eh bien, les moyens d'être un parfait chrétien. Je vous avais dit, pour être un parfait chrétien, il faut avoir reçu les trois sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation, mais également l'accès à la communion. Et bien voilà que pour être un parfait apôtre du Christ, eh bien il faut avoir reçu le sacrement de la confirmation. Pourquoi ? Parce que par la confirmation, eh bien nous sommes armés pour le combat spirituel, et puis pour le témoignage de la foi dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, ce sont des armes. Alors, il ne faut pas prendre ça seulement au côté guerrier. Il faut se rappeler la grande description de Saint Paul. Quand il parle de ce combat spirituel, il faut avoir le casque du salut. Dans la main, le glaive de l'épée, c'est la parole de Dieu. L'armure, je ne sais plus. Enfin, vous voyez... Voilà, si vous pensez un peu à ce que dit Saint Paul à un moment donné, la cuirasse spirituelle, c'est toutes ces vertus, ces dons qui nous sont donnés pour être un véritable chrétien. Donc ces armes, pour ce combat spirituel, on les appelle les dons du Saint-Esprit. Ils sont là à la fois pour soutenir notre intelligence, c'est-à-dire pour mieux connaître Dieu, mais aussi pour venir fortifier notre volonté, parce que depuis le péché originel, notre volonté, elle n'est plus aussi incline à faire le bien. Saint Paul le dit lui-même, il y a le bien que je voudrais faire et que je n'arrive pas à faire, il y a le mal que je ne voudrais pas faire et que je fais. Voilà le déséquilibre qu'il y a en nous, et bien voilà que l'Esprit-Saint vient à la fois soutenir notre intelligence pour mieux connaître Dieu, pour mieux appréhender les mystères de Dieu, et il vient également par ses dons fortifier notre volonté pour avancer vers le bien. Alors nous allons commencer par le don de la crainte de Dieu. Nous allons aujourd'hui les voir chacun dans le détail. Le don de crainte de Dieu. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire après le péché, il y a bien des obstacles pour être au service de Dieu. Et les premiers obstacles ne sont pas forcément à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de nous. Ce premier obstacle, qui porte la marque également du démon, qui a péché par orgueil, c'est l'orgueil. Voilà quel est le premier obstacle que nous pouvons mettre au service de Dieu. Alors, du coup, le don de crainte, eh bien, il vient nous donner l'humilité. L'humilité qui est une confiance, la confiance que le petit enfant a vis-à-vis de son père. Vous savez, quand l'enfant apprend à marcher, il voit son père, il voit sa mère, et sans grande notion du danger, il s'élance dans les bras de son père. C'est dire toute la confiance qu'il a. Il ne craint absolument aucun danger. Il sait que son père l'aime, que son père le rattrapera. Parfois, bon, laissons là les mauvais exemples. Donc du coup, il y a cette confiance d'enfant que nous devons avoir vis-à-vis du bon Dieu. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui dépose en nous ce premier don, qui est le don de crainte. Alors la crainte, ce n'est pas la peur. Il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu. Ce ne serait pas suffisant. Si on veut vraiment être sauvé et qu'on n'agit que par peur de Dieu, ça peut fonctionner un moment, mais à un moment donné, si vous voulez, ce n'est pas suffisant. Alors, ce n'est pas donc avoir peur de Dieu, mais c'est un amour qui n'oublie pas que nous sommes des créatures et que lui est le créateur. C'est-à-dire, c'est le premier don de crainte, mais il permet de remettre chaque chose à sa place. Il y a Dieu là-haut dans le ciel, qui est le créateur, le rédempteur, qui sera mon juge. Et il y a moi, pauvre créature, qui ne serai rien sans lui. Hein? Lorsque l'archange Gabriel apparaît, que ce soit à la bienheureuse Vierge Marie, que ce soit à Zacharie, ce sont toujours les premiers mots des anges. « Soyez sans crainte ». Alors il peut y avoir la peur, si vous voulez, d'avoir un ange qui survienne tout à coup. Mais dans le cas de la Sainte Vierge, c'est surtout la crainte d'offenser le bon Dieu. Mais il y a cet ange qui vient, qui s'incline devant moi, mais je ne suis qu'une créature. C'est moi qui devrais plutôt m'incliner face à l'archange Gabriel plutôt que lui qui s'incline face à moi. Mais la bienheureuse Vierge Marie, Dieu l'a élevée même au-dessus des anges. Donc voyez, il y a cette crainte qui est la crainte d'offenser le bon Dieu, la crainte de nous détourner de lui, de mal agir, de mal faire. Donc voilà ce don de crainte qui nous permet de remettre chaque chose à sa place, hein, et qui nous permet aussi d'avoir cette audace, et bien de, comme le disait très bien Sainte Jeanne d'Arc, messire Dieu, premier servi. C'est la parfaite et la bonne orientation. Je mets mon orgueil de côté, autant faire se peut, et c'est cette vertu d'humilité. Je rappelle que la Sainte Vierge, dans son cantique d'action de grâce, elle dit bien que le Seigneur a posé les yeux sur l'humilité, la pauvreté de sa servante. Elle se reconnaît l'humble servante du Seigneur. Donc ce don de crainte de Dieu, ben, il est là pour bien faire comprendre qui est Dieu vis-à-vis de nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'entre pas dans l'intimité vis-à-vis du bon Dieu, ça ne veut pas dire qu'il veut faire de nous, ça ne veut pas dire, pardon, qu'il ne veut pas faire de nous des fils, qu'il ne veut pas avoir de relation avec nous. Non, cela veut dire que il y a une part des choses à respecter. Je dois respecter le bon Dieu, et en cela, ce don de crainte, on peut le raccrocher aussi dans les commandements. Hein. Tu n'adoreras que Dieu seul. C'est aussi de cela dont il s'agit. On peut donner un premier exemple de ce don de crainte, de ce don, donc, on pourrait dire, d'humilité, d'amour et de respect de Dieu. Vous voyez, c'est autour de ces trois vraiment notions que tourne ce don, hein, l'humilité, l'amour et le respect, dans la vie de Saint François d'Assise, qui, pour ne pas se détourner de Dieu, eh bien, a préféré tout donner pour se mettre à la suite du Christ. Mais tout donner, c'est-à-dire qu'il était fils d'un drapier. Lorsqu'il décide vraiment d'entrer en religion et que son père n'est pas très content, bien, il finit par rendre même les vêtements qu'il portait, et il finit nu devant son père, devant l'évêque et les gens qui sont là, en disant « Mais non, ben, tenez, les vêtements sont à vous, maintenant j'appartiens au Christ. » Alors ça nous paraît quelque peu exagéré, mais voyez comment ce don de crainte nous permet aussi de nous recentrer sur ce qui est l'essentiel. « Messire Dieu, premier servi, hein, je mets le bon Dieu à la première place, et je n'oublie pas que le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Et que même si, par la prière, je m'unis à lui, il reste le bon Dieu. » Donc ça, c'est le premier don. Un don donc, que l'Esprit Saint vient donner en nous, mais pour qu'on ait cette âme bien affûtée. Le deuxième don, c'est le don de piété. Alors, le second obstacle, puisqu'on a vu que le don de crainte, c'était vis-à-vis de l'obstacle qu'est l'orgueil dans notre vie, le second obstacle que l'on peut connaître, ou que l'on connaît, soyons lucides, dans le service de Dieu, c'est notre égoïsme redoublé d'une paresse. Donc, l'égoïsme, pourquoi ? Bien, il est vrai que nous sommes égocentrés, c'est-à-dire que nous appréhendons les réalités du monde par rapport à nous. Hein, c'est pas, je ne connais pas le monde par les yeux de mes parents, de mon frère, c'est par moi. Le petit enfant, quand il pleure et que son père et sa mère viennent, il a l'impression que le monde tourne autour de lui. D'où ce qu'on peut lire dans une certaine littérature d'éducation sur le fait qu'il ne faut pas toujours répondre immédiatement aux enfants, parce que l'école de la patience, elle commence aussi très tôt. Hein, ça peut être, dès qu'il pleure, il exige, alors du coup j'arrive, j'accours. Et le petit enfant, il va devoir apprendre que petit à petit, le monde ne tourne pas seulement autour de lui, de ses besoins, de son confort, mais que le monde a une dimension beaucoup plus grande. Donc du coup, il faut faire attention du coup à cet égoïsme, à ne penser qu'à soi, et aussi à la paresse. Alors du coup, ce don de piété, qu'est-ce qu'il vient faire ? Eh bien, il vient nous aider un peu à sortir de nous-mêmes, à sortir de notre confort, de nos habitudes, pour nous disposer à mieux aimer Dieu et à mieux le servir. Donc du coup, ce don de piété, il nous fait à la fois redoubler d'ardeur vis-à-vis de Dieu, il nous fait l'adorer de façon plus importante, il nous fait grandir du coup dans cet amour de Dieu, mais aussi dans l'amour des saints, parce qu'on apprend aussi à l'école des saints, c'est pourquoi je donne souvent des vies de saints à lire, parce qu'il nous permet de comprendre aussi que les saints ne sont pas nés saints, ils se sont sanctifiés dans leur quotidien, c'est pas parce qu'ils sont saints qu'ils n'ont pas connu d'épreuves, au contraire, ils ont souvent connu de très grandes épreuves, et c'est toujours édifiant de voir comment les dons du Saint-Esprit ont pu se communiquer de telle et telle manière dans la vie de l'un ou l'autre. Par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était la petite dernière de nombreuses sœurs, avec ses parents, son père qu'il appelle la petite reine, était enfant une petite fille très capricieuse et d'une très grande sensibilité, un rien l'a froissée, mais vraiment l'a froissée. Et au cours de la nuit de Noël, comme elle dira, de l'an 1886, eh bien là, elle a reçu quelque chose, c'est ce qu'elle appellera sa conversion, non pas au sens où elle n'était pas chrétienne avant, mais là, le Christ est vraiment entré dans sa vie, elle a vraiment ressenti dans son âme combien elle était envahie par l'amour de Dieu, et à partir de ce jour, elle s'est décentrée d'elle-même, pour ne plus simplement avoir ses petits caprices de petite fille un peu gâtée par ses sœurs, la maman était morte, gâtée par son père, c'est la petite dernière, le monde tourne autour de moi, la vie est bourgeoise ou buissonnée, etc. Là, elle se décentre. Et du coup, qu'est-ce qu'il va devenir ? Elle va devenir une grande âme d'apôtre missionnaire. Pourquoi ? Parce qu'elle va se dire que maintenant, elle doit s'oublier pour aller, à la suite des apôtres, pêcher les âmes. Et du coup, je me rappelle, dans l'histoire d'une âme, elle va voir tel condamné à mort, dont la mort est annoncée. Dans l'article, on lui dit qu'il a même refusé de rencontrer le prêtre. Et donc, Sainte Thérèse va ardemment prier pour que cet homme condamné à mort puisse se convertir avant de mourir. Et lorsqu'elle lira, quelque temps plus tard, que juste avant de mourir, alors il y avait le prêtre qu'il refusait de voir, et puis il y avait le crucifix, et il a demandé à embrasser le crucifix avant de mourir. Et là, Sainte Thérèse, pour elle, ça a été comme une révélation, à la fois Dieu qui exauce sa prière, mais aussi la manifestation de sa vocation missionnaire. Elle a beaucoup prié, a prié pour la sanctification des âmes, pour la sanctification des pécheurs, pour la sanctification des prêtres qui sont au service des âmes. Donc vous voyez comment ce don de piété vient nous aider à passer de ces petits enfants qui peuvent être capricieux, eh bien, à être vraiment adultes dans la foi, à se décentrer de nous-mêmes pour nous recentrer à la fois sur Dieu, mais l'amour de Dieu dit également l'amour du prochain. Voilà comment ce don de piété nous est donné. Il nous fait vénérer et grandir l'amour pour Dieu et pour les saints. Ensuite arrive le don de science. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti un peu de notre égoïsme, qu'on est sorti de l'orgueil, eh bien, il nous faut trouver par quels moyens nous resterons fidèles à Dieu, tout en étant fidèles à Dieu, au service de l'Église. Eh bien, l'Esprit-Saint, il vient nous donner une force. La force d'appréhender sainement déjà les choses créées. Et ça, pour le monde dans lequel nous vivons, c'est déjà important, parce qu'il y a beaucoup de dérèglements dans le monde. D'abord parce qu'on a oublié le bon Dieu et du coup tout ce qui est surnaturel, mais même dans l'appréhension de notre société de consommation des choses naturelles, on a aussi de grands et de graves déséquilibres. Et bien l'Esprit-Saint vient nous aider, c'est ça le don de science déjà, à apprécier sainement les choses créées. Il nous permet ce don de bien comprendre que, de nous aider, pardon, à bien rechercher comment bien user de toutes ces réalités naturelles. Alors on voit dans une société de consommation, il peut y avoir beaucoup de gaspillage, on peut aller chercher des choses très compliquées alors qu'en fait il y a des choses très simples. Et bien, l'Esprit Saint nous reconduit, si vous voulez, dans cette redécouverte de la création comme un don de Dieu. Hein, c'est lié aussi à l'idée que Dieu est provident et que Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Le Seigneur y insiste plusieurs fois dans l'Évangile en nous disant « Mais regardez les fleurs des champs, est-ce qu'il leur manque quelque chose ? Regardez les oiseaux du ciel. Hein, » et le Seigneur de dire « Vous valez beaucoup plus que tous les moineaux du monde. » Donc de nous faire rentrer, si vous voulez, déjà dans un meilleur rapport à la création. C'est une lumière, ce don de science, qui vient donc nous aider à dissiper les apparences trompeuses, et elles ne manquent pas dans un monde sans Dieu. C'est-à-dire que ce don, il vient comme décupler la lumière de la foi, et ce faisant, il nous permet de mieux voir le chemin pour aller vers le bien. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, pour pouvoir avoir la vie et la vie en abondance, la vie éternelle, ben, il faut que je sois sur le bon chemin, que ce chemin soit le vrai chemin, que je puisse accéder à cette vérité. Je vous rappelle, l'Esprit Saint vous conduira vers la vérité tout entière. Et s'il nous conduit, c'est parce qu'aussi il nous met sur ce bon chemin que le Christ a emprunté pour nous. Il est ressuscité, c'est le premier des ressuscités, mais en prenant notre humanité, il nous montre aussi comment bien vivre. Et là, nous touchons du doigt un point essentiel, c'est que ces dons que l'Esprit Saint donne dans le sacrement de confirmation ont été portés à l'état le plus parfait dans l'humanité de notre Seigneur Jésus le Christ. Et là, on voit bien comment dissiper les apparences trompeuses pour, à la lumière de la foi, être sûr d'emprunter le bon chemin. On voit bien que c'est ce que vraiment a vécu le Christ et c'est ce qu'il nous donne dans ce sacrement. Donc, apprécier sainement les choses créées, parce que nous avons à les apprécier, on n'a pas à refuser la beauté du monde ou la bonté des aliments, etc. Non, mais il faut sainement les avoir. Si on commence à les mettre trop haut, on en fait des idoles, et saint Paul de dénoncer, ils ont fait de leur ventre des idoles, c'est-à-dire, voilà. Donc, il faut faire attention à ça, et l'Esprit Saint vient nous aider à la fois à discerner tout cela. Un petit exemple de ce discernement que nous donne le don de science, c'est une courte prière de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, ce grand docteur, nous en avons parlé, qui a médité beaucoup les mystères de la vie de Dieu, qui a cette prière: Esprit Saint, répandez en moi votre lumière pour y voir clair et suivre, par le don de science, le chemin qui mène vers les cimes de la sainteté et de l'amour de Dieu et de mes frères. Et là, on voit encore comment saint Thomas d'Aquin, dans cette petite prière, tient tout, toutes les réalités. Esprit Saint, répandez en moi votre lumière pour y voir clair. Pas simplement pour y voir, mais pour y voir clair. Vous voyez, le don de science, on dissipe les choses un peu inutiles ou futiles. Et suivre, par le don de science, le chemin qui mène vers les cimes de la sainteté. Voilà aussi en quoi nous ordonne ces dons, comme le Seigneur. Le Seigneur, il était saint, saint est son nom, nous dit la Sainte Vierge. Eh bien, nous aussi, on doit prendre ce chemin. Et puis, il précise bien, le chemin de l'amour de Dieu et de mes frères. Puisque le Seigneur nous dit bien que pour aimer Dieu, il faut également aimer le prochain. Alors, une fois qu'on est du coup sur ce bon chemin, par le don de science, eh bien, il faut dire, comme au commencement du carême, on fait un peu le chemin inverse, que de tentations, malgré tout, sur ce chemin. Et c'est là où l'Esprit Saint vient nous donner une force, qu'on pourrait dire une énergie, bien qu'aujourd'hui le mot, vous savez, le champ, les énergies nouvelles, ça reste un peu New Age, mais enfin, on comprend bien cette force, ce courage de pouvoir triompher de tout ce qui pourrait arrêter notre marche. Et aujourd'hui, que ce soit dans l'Église ou dans le monde, les épreuves, les tentations, la difficulté, les incompréhensions dans la famille, les incompréhensions dans la paroisse, toute cette... voilà. Parfois, les lâchetés et les faiblesses, parce qu'une chose est de répondre à des amis, une autre chose est de répondre à la famille, sur un certain nombre de sujets, ce n'est pas les mêmes réalités. Notre niveau d'engagement n'est pas le même. Parfois, il est plus facile de se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'à d'autres personnes que l'on connaît. Vous voyez un peu de tout cela. Donc, il y a de grandes tentations sur tout ce chemin. Et voilà que l'Esprit Saint vient donner cette force pour triompher de tout ce qui pourrait arrêter notre marche. La lassitude, Voilà. Et bien voilà que l'Esprit Saint vient donner ce don de force qui vient nous aider à aller au-delà de la peur. Et là, on comprend bien que ce don de force était celui qui a habité les apôtres enfermés, toutes portes closes, ils sont au Cénacle. Et voilà qu'en recevant ainsi la vision et l'Esprit Saint, ben là, ils sortent et ils vont aller annoncer. Ils n'ont plus peur. Hein. Donc tout ce qui pourrait un peu nous terrifier, nous démoraliser, nous dire mais après tout à quoi bon continuer ainsi, et je connais bien des gens qui à force allaient dans des messes qui ne sont guère des messes, à écouter des sermons qui ne sont pas des sermons, et qui se sont dit après tout mais à quoi bon aller à la messe, et qui ont du coup préféré finalement rester chez eux ou la regarder à la télévision où ça sera un peu plus sérieux. Et encore, voilà. Donc du coup, vous voyez tout ça, hein, ou même les rivalités dans les paroisses, les incompréhensions, qui peut nous décourager. Ben l'Esprit Saint vient nous donner une force pour triompher de tout ce qui pourrait arrêter notre marche. Il n'y a qu'à penser aussi à comment les martyrs au dernier instant ont eu cette force d'âme de témoigner. Pensons à Saint Maximilien Kolb qui était en tant que prêtre catholique dans le camp de concentration à Auschwitz et qui, parce qu'un prisonnier s'était échappé et que en disant ben du coup on va sacrifier telle et telle personne, on prend un père de famille et le père Maximilien Kolb de demander aux nazis de prendre la place du père de famille parce que lui n'a pas d'enfant à s'occuper. Et ensuite également cette force dont ont témoigné ceux qui étaient avec le père Maximilien Kolb dans la cellule. De voir à quel point le père Maximilien Kolb leur faisait chanter des cantiques, les confesser, les faisait prier, et ils ont été obligés de venir le sortir et de le gazer dans les premiers, parce qu'ils voyaient bien que le père Kolb réussissait, dans ce désert spirituel et humain, à semer une espérance folle dans sa cellule, avec les quelques prisonniers qui avaient. D'où lui venait cette force ? Ben, cette force, elle lui vient bien sûr de sa foi, et décuplée dans ce sacrement-là. Donc, il faut aussi, maintenant que l'on connaît un peu ses dons, ne pas avoir peur dans notre prière et au quotidien d'invoquer l'Esprit Saint en lui disant « Mais l'Esprit Saint, donnez-moi le don de force, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Puis ce n'est pas dans 3 ans, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Inspirez-moi, donnez-moi le bon conseil, parce que sinon je vais sentir que je vais arrêter d'avancer par faiblesse, ou par esprit du monde, ou par esprit de convenance, ou par ras-le-bol. Donc voilà, nous pouvons que demander à l'Esprit Saint de donner ce don de force pour qu'à l'exemple de tous ces témoins martyrs, eh bien, on puisse être soi-même fidèle à l'Évangile et à notre foi. Alors ensuite, une fois qu'on est aidé par l'Esprit Saint pour ne pas défaillir par faiblesse sur ce chemin, eh bien, il va y avoir après ce don de force, il y a le don de conseil. Ils sont un peu, si vous voulez, ils s'appellent l'un l'autre. Le don de conseil, eh bien, pour nous diriger et nous montrer ce qui est le plus nécessaire sur cette route. Hein, il faut parfois discerner. Alors j'ai ma famille, j'ai le travail, j'ai l'engagement à la paroisse, à l'église, et parfois, et puis j'ai les loisirs, et puis j'ai la vie associative, et puis il y a parfois des choses comme ça dans les emplois du temps qui doivent rentrer en concurrence. Alors est-ce que je dois délaisser mes enfants ? Est-ce que je dois aller à l'église ? Est-ce que je dois... Beaucoup de choses, ou alors en plus après il y a les malades, il y a les... Et voilà, ben, c'est aussi ça. Hein, qu'il faut invoquer l'Esprit Saint, parce que c'est vraiment lui qui est le spécialiste du discernement des choses, hein, lui demander ce don de conseil pour nous diriger, et puis parfois aussi pour avoir à conseiller les autres qui vont venir nous demander aussi conseil. Et on voit bien que ce conseil, quand on vient chercher un conseil, on vient aussi chercher, bien sûr, une hypothèse, qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais en plus une force. Quand on vient demander conseil, on vient aussi demander à la personne eh bien, de nous donner un peu de sa force pour qu'est-ce que tu ferais dans telle situation, dans un voilà, courage. Donc cette force a besoin d'être conduite pour être utilisée quand il le faut. Oui, parce que c'est, il faut aussi, si vous voulez, si on agit avec force dans des moments ou des endroits qui ne le vont pas, on le voit. Si on commence à parler, si vous voulez, de façon très catégorique à des gens avec qui on est très en paix à un moment donné, on va se dire mais qu'est-ce qui lui prend tout à coup ? Donc on voit bien que le force et ce don de conseil qui n'est pas sans force doit être, vécu au bon moment. Et c'est ça aussi que l'Esprit Saint vient nous aider à faire. C'est un don de conseil qui vient aussi nous aider, on aurait dû en parler au commencement du carême, qui vient nous aider dans les résolutions que nous avons à prendre. Hein, et le Saint-Esprit ainsi nous guide dans les doutes et les incertitudes. Hein, il nous aide à tenir de bonnes résolutions. Il est vrai, si on prend dans l'exemple de la vie des saints, par exemple, le saint curé d'Ars, qui passait des heures et des heures entières au confessionnal, qui sentait parfois venir de loin les gros poissons, comme il disait, ou là, il se préparait dans le jeûne et la prière, parce qu'il disait, là, le bon Dieu m'envoie un gros poisson, c'est-à-dire vraiment un retour à Dieu important, etc. Et il demandait souvent, hein, le curé d'Ars à l'Esprit-Saint, hein, de lui donner justement cette force et ce conseil que lui, en tant que curé, allait devoir donner dans le confessionnal. Je vous rappelle, il disait toujours, le curé d'Ars, il faut être un loup en chair pour dénoncer le péché, mais un agneau au confessionnal, parce que c'est pas au péché dont on a affaire au confessionnal, on doit accueillir le pécheur. Et donc il demandait toujours, hein, ce don de conseil, hein, pour pouvoir aussi diriger et puis pour pouvoir s'instruire. Ensuite, il y a le don d'intelligence, c'est le sixième des dons. Dans notre marche vers Dieu, dans cette vie spirituelle, et chacun pourra y réfléchir, il a pu y avoir, ou il y aura, des moments où une lumière de Dieu nous a été donnée, qui a éclairé telle situation, qui a éclairé telle réflexion, quelque chose dont on est presque étonné en se disant « mais j'ai jamais dit une chose pareille » ou « je ne sais pas d'où ça m'est venu ». Ben voilà d'où ça vient. Ça vient de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint, il vient illuminer notre intelligence. Hein, alors voyez, illuminer l'intelligence, on comprend que ça a un rapport avec le don de conseil. On comprend que ça a un rapport avec le don d'intelligence, même avec le don de la crainte de Dieu, puisque si je suis illuminé, c'est parce que j'ai cette transcendance de Dieu qui vient me donner quelques lumières. Donc, notre esprit est illuminé par Dieu, à la fois pour mieux comprendre les mystères de la foi. Vous savez que nous lisons et relisons, par exemple, les mêmes évangiles chaque semaine. Et oui, mais il n'y a pas le téléphone sur le combiné, donc merci pour l'efficacité, Yves. Donc, le don d'intelligence, dont notre esprit est illuminé par Dieu pour mieux comprendre les mystères divins. Oui, je disais, on lit souvent les mêmes évangiles parce qu'on n'en a pas 36 000. D'année en année, il peut se trouver que dans tel carême, on est plus éprouvé dans la famille, dans tel autre carême, on se rappelle qu'on était bien malade ou accidenté, dans tel autre. Et donc, du coup, la lecture, la méditation des Écritures prend une couleur différente vis-à-vis, non pas de notre égoïsme, mais du fait que c'est nous qui les lisons, avec ce que nous vivons. Mais parfois, il y a vraiment notre esprit qui est illuminé, tiens, il y a quelque chose que je l'avais déjà lu, mais je ne l'avais pas compris comme ça. Hein, vraiment une lumière intellective qui nous est donné. Alors, ça peut venir en lisant des commentaires des Saintes Écritures. Moi-même, quand je lis les Pères de l'Église, il y a des fois, je me dis, oh là là, mais comment, oh là là, c'est vrai qu'on peut voir ça comme ça, je n'avais pas fait attention moi-même. Et puis parfois, on a des fois des choses comme ça qui viennent, qui sont données. Alors, tout le monde ne prêche pas, tout le monde n'est pas prêtre, mais parfois, dans la prédication, même si on l'a préparé, etc., quelque chose qui était beaucoup plus clair, qui était beaucoup plus juste, eh bien voilà, c'est l'Esprit-Saint qui vient aussi à la fois illuminer nos intelligences et puis en faire profiter ceux à qui auprès de qui nous sommes envoyés. Il y a Don Bosco, je sais que je vous avais fait lire la biographie de Don Bosco, qui a eu cette capacité de catéchiste, pourrions-nous dire, d'introduire tous ces jeunes qui venaient de milieux très défavorisés et qui étaient très éloignés de Dieu. Il a su vraiment les captiver et creuser en eux le désir du ciel. Hein, il y a eu comme ça une jeunesse qui a été sauvée de ces quartiers pauvres de Turin par cette bonté de Don Bosco, par ses charismes de magicien, voilà. Donc du coup, voyez comment l'Esprit-Saint peut se servir aussi de nos dons que nous avons reçus au naturel pour mieux les aiguiller. Alors au début, Don Bosco, quand il était au séminaire et qu'il faisait ses tours de magie, on le prenait plus pour un petit démon que pour un futur prêtre, en se disant, mais attendez, il nous fait que des tours de magie, il fait disparaître des trucs, il s'amuse comme ça. Et voyez comment quelque chose qui aurait pu effectivement être un mauvais chemin, parce qu'il aurait pu s'en servir pour son orgueil, pour se mettre en scène, ben non, le bon Dieu a su, parce qu'il a été suffisamment humble, aiguiller tous ces dons qu'il lui avait donnés, tous ces charismes, pour vraiment le mettre au service de Dieu. Ça demande aussi une force intérieure et puis quelques lumières. Et puis après, ça a été aussi couronné par ses songes, hein, qu'a reçu Don Bosco, notamment le songe des, des trois blancheurs que nous sont la blancheur de la Sainte Vierge, hein, l'Immaculée, la blancheur de l'Eucharistie et la blancheur du pape, hein, pour montrer que la barque de l'Église, elle est peut-être ballottée d'un côté à l'autre, mais elle a ses ancres bien accrochées à la Sainte Vierge, à l'Eucharistie, et que le pape, hein, dans la vision de Don Bosco, ben, ce sont des cardinaux qui avancent les uns après les autres en tête du navire, un pape meurt et l'autre vient. Voilà. Donc on nous donne, voyez, une plus grande intelligence des mystères de la foi, et puis cette, le fait d'être arrimé. Voilà. Hein, la foi, elle est... la foi est représentée, c'est l'espérance qui est représentée par une ancre, hein, l'ancre comme pour le navire, bien on comprend que du coup là on est arrimé, vraiment on tient solide. Et enfin, et vous allez voir que c'est quand même lié à l'intelligence, il y a le don de sagesse. Alors, autant le don d'intelligence, c'est une lumière qui nous est communiquée là ponctuellement sur tel évangile, tel mystère de Dieu, quelque chose qui nous permet d'avancer. Mais dans le don de sagesse, l'Esprit Saint donne par ce don, c'est un don, si vous voulez, de pouvoir contempler les choses éternelles, de savoir entrer et savourer les choses de Dieu, de mieux goûter la vérité, hein, qui est en Dieu, de mieux aimer Dieu. Vous voyez, on est plus ajusté dans des choses plus concrètes. La lumière intellectuelle, elle est sur tel et tel mystère, tel et tel... charisme pour transmettre le mystère de la foi. La sagesse, elle est là pour être l'homme sage, de se dire « ils se font tout un tas d'histoires sur telle et telle et telle et telle chose. Prenons un peu de recul, il n'y a pas mort d'homme. » Vous voyez ce que je veux dire ? On remet un peu les choses dans une autre perspective. Pas simplement la perspective quelque peu égoïste ou égocentrée de « je vois le problème par le petit bout de la lorgnette » et puis on va prendre une grande respiration, hein, le souffle de l'Esprit Saint nous permet de replacer tout ça, on peut dire, un peu dans l'histoire du salut. Hein, et parfois, c'est une grande vertu et un grand don que nous donne l'Esprit Saint à ce moment-là, celui de prendre de la hauteur, hein, sur tel événement. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas peiné, ça ne veut pas dire que, mais bon, mais replaçons les choses à leur place. Donc, c'est une sagesse. On peut prendre alors l'exemple de Salomon, qui... dont on loue toujours la grande sagesse de Salomon, qui était plus attiré, non pas par la richesse ou par les choses un peu créées, mais qui était vraiment attiré par ces choses de Dieu. Hein, de se dire, voilà, il y a tel et tel problème, telle et telle chose, on m'a dit ça, on m'a fait ça. Oh mes enfants, replaçons-le tout cela à travers le mystère de la passion du Seigneur. C'était nos souffrances qu'il portait. Voilà. Hein, parfois, toutes ces querelles intestines dans les paroisses sur monsieur et madame untel qui ceci, cela... Après tout, ça l'a toujours été, et c'est aussi une vertu que de savoir un peu s'en prendre le large, prendre le large. Donc voilà un peu pour ce don de sagesse, hein, contempler les choses éternelles, savoir aussi savourer les choses de Dieu. Vous savez, c'est pas toujours facile de prendre sa petite Bible, ses lectures du jour, et puis petit à petit, on a l'habitude, avec les lumières du don d'intelligence et du don de sagesse, de se dire, ben oui, c'est vrai, le Seigneur, il a dit ça. Et ce don de sagesse nous permet aussi de le mettre en pratique plus facilement. Donc vous voyez, ces dons, hein, ces sept dons que donne le Saint-Esprit, donc ce sont des qualités surnaturelles, ça ne veut pas dire qu'elles sont contraires à notre nature, hein, au contraire, ils viennent s'y adjoindre, mais ils vont donner dans l'âme une mise en perspective beaucoup plus grande. Hein. On connaît mieux son devoir, finalement, son devoir chrétien, et puis, on a aussi plus de courage pour l'accomplir. Je rappelle que cette confirmation, elle ne donne pas la grâce, elle augmente en nous la grâce en décuplant en nous ses dons. Alors, il y a un petit dessin que vous allez voir sur les feuilles. Je vous le mets à la bonne page, justement. C'est au dos. Le petit dessin au dos. Au dos. Deux petits dessins qui résument l'importance de la confirmation et des dons du Saint-Esprit. Alors vous voyez, nous sommes au bord de la mer, il y a le phare, il y a la barque. Et on nous dit, l'âme après le baptême, hein, elle est comparable à une barque, notre âme, elle peut avancer vers son but qui est le ciel. Donc là, j'ai la barque, j'avance vers le ciel. Les dons du Saint-Esprit, je vous l'avais dit, sont comme les voiles du bateau. Alors on prend quand même la direction du ciel. Mais ça va faciliter l'avancée de notre âme sur le chemin du ciel. Et cette image des voiles est importante parce que c'est vraiment cette image du souffle que l'on apparente vraiment à l'Esprit Saint, qui nous permet à la fois de souffler quand on est épuisé, souffler pour un peu se décentrer de soi, souffler pour prendre un peu de distance vis-à-vis de tous les problèmes et nous recentrer vers Dieu. C'est pour ça répond aussi ce petite image sur la question « La confirmation est-elle nécessaire au salut ?» Non, elle n'est pas nécessaire au salut, mais enfin, ça va plus vite que d'ouvrir la grande voile et d'avancer. Et puis, deux petites histoires qui sont, vous allez l'entendre même dans l'accent même, qui sont racontées par le curé d'Ars. Le saint curé d'Ars se montait en chaire pour faire le catéchisme à ses paroissiens, et le père Lacordaire, qui était ce grand dominicain, grand prédicateur de Notre-Dame de Paris et de partout en France, était venu un jour à Ars et avait écouté jusqu'aux larmes, et ils ont pleuré l'un l'autre en s'écoutant l'un l'autre. Le curé d'Ars s'est monté en chaire, et avec son esprit campagnard et très simple des choses de Dieu, a su faire pleurer le grand-père Lacordaire, et le grand-père Lacordaire, avec tous ses concepts, a su faire pleurer le petit curé de campagne. Vous allez voir dans ces deux petites histoires, on retrouve à la fois le curé d'Ars, le curé de campagne, et puis dans ces images. Donc, la première est le suicide. Le bon Dieu, en nous envoyant le Saint-Esprit, a fait à notre égard comme un grand roi qui chargerait son ministre de conduire un de ses sujets, disant « Vous m'accompagnerez cet homme partout et vous me le ramènerez sain et sauf. » Que c'est beau d'être accompagné par le Saint-Esprit. C'est un bon guide celui-là. Et dire que beaucoup de gens ne veulent pas le suivre. Voyez, on retrouve ce petit côté campagnard, c'est un bon guide celui-là, vous m'accompagnerez cet homme. voilà. Et ensuite, ça c'est la seconde image, le catéchisme du curé d'Ars est toujours plein d'images, entre l'éponge et le caillou, on pourrait presque croire une femme de La Fontaine, l'éponge et le caillou. Prenez dans une main une éponge imbibée d'eau, dans l'autre un caillou, pressez-les également, il ne sortira rien du caillou. Tandis que de l'éponge, vous ferez sortir de l'eau en abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint-Esprit. Et le caillou, c'est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit n'habite pas. Voyez comment le saint curé d'Ars, avec ses lumières du don d'intelligence, peut trouver, comme le Seigneur dans ses paraboles, des choses toutes simples pour faire comprendre véritablement de grands mystères. C'était aussi ce que Don Bosco était capable de faire en aiguillant cette jeunesse qu'il voyait perdue, en la réaiguillant vers le bon Dieu. Ah, le bouton ne marche plus. Si. Et maintenant, pour terminer, après ces appels incessants, juste les questions à retenir et les définitions. Quels sont les sept dons du Saint-Esprit et leurs définitions? C'est ce qu'on vient de dire de façon très abrégée. Don de sagesse, il donne de porter sur toute chose le regard de Dieu. Don d'intelligence, il est une illumination de l'intelligence sur les mystères de la foi. Don de conseil, il dirige et montre ce qui est le plus nécessaire pour le salut. Don de force, il donne le courage de surmonter les obstacles. Don de science, il nous aide à bien approfondir les mystères de Dieu par le catéchisme. Don de piété, pour vénérer Dieu et être bienveillant à l'égard du prochain. Don de la crainte de Dieu, pour que nous redoutions d'offenser Dieu, notre Père. Alors, chaque petite définition ne reprend pas tout ce que nous avons dit, mais on a là quand même des tonalités sur cette vie spirituelle qui est une vie à la force du Saint-Esprit. Et la dernière image, qui est celle de cette barque avec ses sept voiles, c'est vraiment, on a dit la barque c'est l'image de l'âme, les voiles sont celles qui reprennent chacun des sept dons, et puis on voit qu'on est dirigé vers ce grand soleil dans lequel il y a marqué amour. Alors je ne suis pas toujours sur les grands dessins, mais ça ce sont des dessins de catéchisme qui disent ce qu'ils veulent dire. On voit bien comment par le baptême qui est symbolisé par la barque et la confirmation et ses grandes voiles, bien là nous prenons vraiment le chemin de Dieu, de cet amour de Dieu, de cet amour du prochain, et on ne peut pas dévier. Mais voilà qu'après le péché nous fait perdre quelque peu les lumières des dons du Saint-Esprit qu'une bonne confession permet de raviver.